Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Régis Delanoë, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes journaliste, vous collaborez notamment pour les magazines Breton et Bikini. Vous êtes aussi auteur et après l'échappée bretonne en 2021, on vous reçoit pour parler d'Augustine, un siècle de Bretagne. C'est paru au mois d'octobre aux éditions du Coin de la Rue. Alors Augustine, on découvre dans cet ouvrage que vous étiez son petit chouchou. Vous avez passé votre enfance et votre adolescence avec cette mamie pour plus proche voisine dans les Côtes d'Armor. On commence avec le point de départ à cet ouvrage. C'est en fait quelques semaines après le décès de cette grand-mère que vous retombez sur trois petits carnets d'écoliers qui lui avaient en fait été offerts pour ses 80 ans.
Exactement, ouais. Toute l'histoire est partie de trois carnets d'écoliers qui ont été achetés à l'occasion de ses 80 ans. On lui a fait une grande fête, en fait, c'était l'occasion peut-être de faire un bilan. C'était en 2000, elle était née en 1920, donc en 2000, pour ses 80 ans, on lui a dit « Est-ce que ça te dirait pas d'écrire tes mémoires ?» puisqu'on se rendait compte qu'elle avait une excellente mémoire, qu'elle savait raconter des choses, qu'elle avait déjà un peu de recul aussi sur sa vie.
Qu'elle aimait lire, écrire aussi.
Exactement, ouais, tout à fait. Et donc on l'a incité. Alors elle a mis un petit peu de temps à se décider, puis finalement elle s'est lancée tellement qu'elle y a passé énormément de temps dans les mois qui ont suivi. Et ce sont des carnets que j'ai lus à l'époque, que j'ai lus, mais j'étais adolescent, donc je regardais ça et avec tendresse, avec la tendresse d'un adolescent, mais c'est effectivement qu'à son décès en 2018, étant entre-temps devenu journaliste, que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose, une matière à en faire au-delà du cercle familial. Et donc je suis parti de ces mémoires pour mener cette enquête historique plus globalement sur l'évolution de la Bretagne au XXe siècle.
Alors dans ces trois cahiers, votre grand-mère, elle y racontait sa vie, en commençant même par celle de ses parents. Tout va en fait se dérouler sur un petit territoire, une dizaine de kilomètres. On est dans les Côtes du Nord, qu'on appelle désormais les Côtes d'Armor. Dans ce village, alors on va être sur deux communes, mais d'abord à Ifignac, qu'elle appelle Fignac, puisqu'elle parle gallo.
Finia même, exactement.
Finia
en gallo, tout à fait. Donc elle est née en 1920, et donc j'ai souhaité au départ, dans un premier chapitre introductif, parler des conditions de sa naissance, parce que naître en 1920, c'est pas anodin. Elle est née dans un contexte très traumatique, avec son père qui revenait tout juste de la guerre, Première Guerre mondiale, qu'il avait fait entièrement, et même au-delà, puisqu'il avait fait son service militaire en 1913, il a été démobilisé qu'en 1919, donc elle est née un an plus tard, c'était l'aînée de sa famille, donc dans un contexte très difficile, un milieu paysan, comme énormément de personnes vivaient à cette époque-là, un milieu assez clos, un milieu qui n'avait que très peu évolué finalement depuis pas mal de décennies, voire presque, j'oserais dire presque deux siècles, quelque chose, un univers assez cotonneux. Et donc elle grandit dans cet univers-là, et elle évolue avec ses frères et sœurs ensuite. Et donc j'ai continué à parler de sa scolarité, de son adolescence, etc.
Alors Augustine Quintin, puisque c'est son nom de jeune fille, elle est née en 1920, vous venez de le dire. Moi, les mots qui me viennent à l'esprit en découvrant la vie de votre grand-mère, en tout cas sur la première partie de sa vie, c'est une forme de dureté, ou en tout cas une vie sous contrainte, des contraintes multiples.
Oui, ça m'a surpris en lisant ses mémoires de me rendre compte d'un côté assez obscur, un univers d'enfance assez peu entourant, assez peu affectueux vis-à-vis de ses parents. Elle dit quand même que la première fois que sa mère l'a embrassée, c'était le jour de son mariage, donc elle avait 27 ans. Donc elle a beaucoup souffert, je pense, de ça. Elle s'est rattrapée avec ses enfants et ses petits-enfants, dont j'en suis justement. Donc je me suis rendu compte qu'elle a donné cet amour qu'elle n'avait elle-même assez peu reçu, et un univers assez entouré par le deuil, par la mort. On était dans un univers où la mortalité infantile, elle a eu un frère qui est mort en très bas âge, une voisine également qu'elle aimait beaucoup, donc beaucoup de ça, beaucoup d'une emprise religieuse également qui était assez douloureuse, pleine de non-dits, d'interdits, de peur, et donc ça l'a fait évoluer dans un univers univers qui était assez difficile pour une enfant. Et moi, c'était justement l'idée, c'était d'explorer le passé finalement au regard du présent pour voir un petit peu la comparaison entre moi, la manière dont j'ai évolué en tant qu'enfant dans les années 80-90 et les enfants d'aujourd'hui. Totalement différent.
On découvre aussi la scolarité d'Augustine, donc qui va à l'école de ses 6 à ses 12 ans. Elle se révèle être au fil des années première de classe. Finalement, elle ne pourra pas poursuivre et le choix qui se posera, mais en fait pas vraiment elle, ce sera d'aller travailler à la ferme ou bien de rentrer dans les ordres. Finalement, elle ira travailler rapidement à la ferme. Et puis quand même, cette première moitié du XXe siècle qu'Augustine traverse, c'est aussi un contexte de guerre. La première, elle n'est pas encore née, elle en connaît finalement des silences, une histoire traumatique avec un oncle qui est décédé durant cette première guerre mondiale. La deuxième, elle a 20 ans et elle confie alors dans ses carnets des souvenirs de réquisition, de pénurie. Elle emploie les mots suivants: la guerre fait plonger l'humain jusqu'aux lisières de la folie. Ça, c'est ce qu'elle dit au sujet d'un culte sûrement inconnu de beaucoup, celui de Notre-Dame de Boulogne. On y découvre des choses très curieuses là dans ce récit.
Ouais, on se rend compte en fait que la guerre à hauteur d'une jeune femme qui a 20 ans en 1940, c'est quand même compliqué d'essayer de s'imaginer comment elle a pu évoluer dans cet univers où on savait pas quand est-ce que ça allait se terminer. Nous, quand on étudie la Seconde Guerre mondiale, on sait qu'elle commence en 1939 et se termine en 1945. On a la fin, elle. On se rend compte dans le récit qu'elle en fait, donc quelques décennies plus tard, qu'il y avait cette peur et cet inconnu et cette ambiance pesante finalement, puisque c'est l'occupation allemande, la commune d'Ifignac dans laquelle elle a évolué. Il y avait des restrictions, il y avait des réfugiés qui arrivaient et il y avait beaucoup de... On se regardait et on évoluait dans un contexte vraiment très très pesant et jusqu'à la libération où là c'est une explosion de tous les sentiments finalement, puisque son mari, elle le connaît finalement lors du bal de la libération. Donc ça, c'est quelque chose, un moment de joie extrême, et c'est quelque chose de presque très romanesque, j'oserais dire. Et en même temps, il y a le contexte de l'épuration où elle assiste vraiment à la tonte des femmes sur la place du village, donc des choses très traumatiques encore.
Voire même jusqu'à une femme dont vous découvrez le parcours qui sera tuée à ce moment-là.
Oui, en fait, pour mener mon enquête, je me suis appuyé à la fois sur les mémoires d'Augustine et sur des affaires qu'elle avait récupérées, notamment ses photos, mais je me suis également plongé sur des archives municipales, des archives paroissiales, et donc dans les archives municipales d'Ifignac, je me suis procuré les extraits du conseil municipal où il y a une secrétaire de mairie dont je découvre la destinée et qui paraît assez tragique, d'une secrétaire de mairie qui a priori, d'après le récit qu'en fait ma grand-mère, aurait aidé des résistants, et puis finalement elle a été épurée, elle a été assassinée dans des circonstances assez troubles. Donc c'est un peu une part d'inconnu que je laisse en suspens, mais qui semble vraiment être révélateur de ce contexte des années 44-45, plein de contrastes.
Et d'un climat proche de la folie. Alors vous l'avez dit, c'est lors d'un bal en 1945 qu'Augustine rencontre François, son futur époux. Ensemble, ils auront 3 enfants, quitteront la ferme d'Ifignac pour une autre à Lyon, pas très loin. Les années 50 vont alors marquer un grand bond en avant, c'est le sujet d'un chapitre. La société tout entière va se transformer et se moderniser. Avant d'arriver à la ferme, il y a ce que tout le monde va connaître, l'arrivée des postes de télévision, la disparition de certains métiers aussi.
Oui, ce sont 3 décennies qu'on a appelé les 30 glorieuses, que la sociologie a appelé les 30 glorieuses, qui sont totalement fascinantes. Moi, je suis très intéressé par cette période de l'après-guerre, de la 4e République, du Célib qui a modernisé la Bretagne.
Le Célib, c'est le comité d'études et de liaison des intérêts bretons.
Du plan Marshall qui a fait arriver plein de tracteurs et qui a institué un nouveau modèle, une forme de révolution agricole, avec le roman Bromont qui, au passage, est le sujet d'une BD d'Inès Leroux que je recommande également,
qui vient de sortir.
Et toute cette modernisation, cette fièvre presque de modernisation, de progrès, et l'idée à cette époque-là d'un monde de progrès qui ne finira jamais. En fait, il n'y a pas de finitude, et ça, c'est un état d'esprit que, encore une fois, dans mon désir de faire dialoguer le passé et le présent, on retrouve encore les traces aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire quelque part. Puisque cette révolution agricole, elle a relevé la Bretagne et il y avait une forme de revanche, je pense aussi, de ces Bretons qu'on considérait comme des cutéreux, des ploucs, des péquenauds, comme on disait à l'époque. Elle s'est relevée, il y a une fierté de cette génération auquel a appartenu ma grand-mère. Mais peut-être est-on allé trop loin et elle s'en est rendue compte, je pense, effectivement, dans les dernières décennies, à partir des années 70, où ça commence à dérailler, justement.
Et donc, en effet, au départ, les plans de développement ils sont accueillis comme une bonne nouvelle par vos grands-parents. Le symbole de cette modernisation, c'est la construction d'une porcherie dernier cri à l'époque qui abrite 200 porcs. Un enthousiasme qui va en fait s'étioler assez rapidement avec, on le découvre, l'endettement, une forme d'épuisement et puis les maladies aussi chez les animaux comme chez les hommes.
Oui, mon grand-père, ça fait partie de l'inconnu, mais mon grand-père est décédé en 1979, donc je ne l'ai pas connu, moi je suis né en 1983.
Il avait 56 ans.
Il avait 56 ans, 57, ouais. Et je me suis interrogé beaucoup, en fait, parce que je me suis rendu compte à travers les mémoires d'Augustine qu'il a effectivement épousé toutes les thèses de la révolution, enfin, toute la politique de la révolution agricole avec une productivité intense, mais aussi l'utilisation, justement, de produits chimiques, de produits d'engrais.
Sans protection.
Sans aucune protection. À l'époque, on ne leur disait pas, on faisait confiance. Il y avait des techniciens qui arrivaient dans les fermes et puis on leur donnait des sacs d'engrais. Ils les utilisaient allègrement puisque voilà, ils se rendaient compte que ça faisait pousser les cultures de manière presque magique et surnaturelle. Et donc, il est décédé très brutalement. En quelques mois, il a été emporté par une maladie du sang très énigmatique. Et moi, je me suis interrogé, effectivement, est-ce que ce grand-père que je n'ai pas connu, est-ce que quelque part, il est décédé de ce modèle agricole, je ne le saurais pas. En tout cas, j'ai interrogé mon père qui lui-même a été agriculteur par la suite et me dit effectivement c'est un non-dit dans les campagnes bretonnes, mais il y a énormément de morts précoces de personnes à peine arrivées à la retraite qui décèdent précocement de maladies telles que des cancers diverses.
Donc François, votre grand-père décède à la fin des années 70 et puis on continue à suivre Augustine à travers son histoire. C'est en fait toute l'évolution de la société rurale française qu'elle raconte et puis celle des femmes qui voient leurs droits progresser quand même tout en continuant à être assignées au foyer. Elles vont acquérir le droit de vote, ça c'est en 1944 et puis le compte bancaire en leur nom, ça c'est, j'ai plus la date, dans les années 1965. La génération d'Augustine est aussi celle qui découvre les congés payés et plus tard la retraite active, très active pour votre grand-mère qui va sortir d'Ifignac.
Ouais, c'est un âge d'or en fait de la retraite. En tout cas, les débuts de la retraite telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est à cette époque-là, en fait, par rapport à la génération précédente, celle de ses parents. Elle a connu effectivement la possibilité de partir voyager, alors sur le tard finalement, puisqu'elle raconte que son premier voyage dans le centre de la France, du côté de Vichy, où ils avaient des amis, ils partent, ils ont 50 ans passés, donc avec son mari. Puis après, elle, devenue veuve dans les années 80, elle fait les voyages organisés avec le club du 3e. Donc elle part même jusqu'en Autriche, jusqu'en Italie. Alors évidemment, toujours en car, puisqu'elle n'avait pas le permis.
Elle n'a jamais voulu le passer,
elle en avait peur un petit peu. Je pense qu'on ne se rend pas compte de combien l'arrivée justement de la modernisation a été difficile. C'est un monde qui s'est vraiment accéléré à tout point de vue et au sens littéral du terme. Et en fait, elle n'a pas passé le permis. Et donc elle a vu l'arrivée des premières voitures. Son mari a passé le permis et c'est lui qui véhiculait toute la famille, mais elle non. Et en fait, ça montre aussi toute cette émancipation féminine assez tardive finalement, puisqu'on laissait assez peu les femmes justement avoir cette indépendance. Alors elle a eu cette indépendance surtout à partir des années 80-90 justement en tant que femme retraitée.
Donc une retraite plutôt sereine et elle parle d'une solitude entourée de sa famille. S'il y a une constante dans la vie de cette grand-mère Augustine, c'est quand même cette foi très puissante, jusque dans les dernières pages du livre où elle vous adresse quelques conseils de garder quand même un lien avec la religion, ça semble un peu l'inquiéter. Elle reconnaît quand même avoir reçu une éducation religieuse excessive et trop conservatrice. Est-ce que vous avez le sentiment que ce recul critique, elle l'avait aussi sur l'agriculture conventionnelle qu'on a évoqué juste avant ?
Oui, je pense qu'elle l'avait de manière assez globale, et c'est ce que j'ai toujours aimé chez ma grand-mère, c'est que finalement elle n'était pas du tout dans ce « c'était mieux avant », dans une forme de nostalgie, dans une forme de regard critique sur son présent et tout ça, elle ne l'avait pas. Et je pense que, ayant écrit ses mémoires en plus à 80 ans passés, elle avait la possibilité de porter un regard critique et parfois assez dur sur la manière dont elle a pu être éduquée. Et elle reconnaissait que nous autres, ses petits-enfants, on avait été éduqué avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'écoute, et que c'était beaucoup mieux comme ça. Après, la religion tenait une part importante dans sa vie. Elle a vu cette évolution aussi entre cet entre-deux-guerres avec une forme presque d'aliénation, et elle a accompagné l'évolution à partir du Concile Vatican II notamment, et encore jusque la fin de sa vie, elle continuait à aller à la messe, et puis dans les dernières années à regarder le dimanche matin la messe à la télé. Nous, elle observait qu'on s'y intéressait moins. Alors ça, il y avait une curiosité par rapport à ça, il y avait une forme d'inquiétude, pas de déception, je dirais, mais je pense qu'elle voyait que la société évoluait et c'était comme ça.
Au-delà des trois carnets qui ont nourri l'écriture de ce livre, dont je redonne le titre, Augustine, un siècle de Bretagne, vous êtes allé recueillir des témoignages dans son entourage, vous avez fouillé les archives d'époque et puis aussi convoqué les travaux de chercheurs. On croise des historiens, des sociologues, des anthropologues. Ce que vous cherchez à faire, c'est de comprendre sans juger. J'imagine que c'est pas évident quand il s'agit de son propre récit familial de mener une telle démarche.
Alors c'est pas si facile, et en même temps c'est, moi je trouve super intéressant de faire de l'histoire incarnée finalement à l'histoire d'une anonyme, d'une femme en plus, dans un siècle où beaucoup de choses ont changé pour eux mais aussi pour elle. Et on se rend compte en convoquant à la fois la vie personnelle d'Augustine qu'il y a un côté à la fois très intime et à la fois très universel également. Et finalement l'évolution de sa vie au fil des décennies épouse énormément d'évolutions d'une région comme la Bretagne au cours du XXe siècle. Et donc moi, c'était tout le procédé de faire dialoguer à la fois elle, son propre récit, et moi, le regard que je peux avoir avec deux générations d'écart, et avec mon intérêt également pour l'histoire et le fait de convoquer justement à la fois des historiens, des sociologues, des géographes, etc.
Ce très bel ouvrage de plus de 250 pages, il est rendu encore plus beau par les illustrations dont on va dire un mot. Elles accompagnent le récit et sont signées Joëlle Bossel. Elle est carnettiste et relieuse d'art pas très loin de Dinan. Comment est-ce qu'elles ont été construites, en tout cas ces illustrations, pour bien s'articuler avec le texte? On croise des cartes parfois, des photos qui sont retranscrites, et puis on vous suit, vous, dans votre enquête.
Oui, ça a été une démarche très réfléchie également. On s'est même posé la question au départ de peut-être en faire un roman graphique en fait de la vie d'Augustine, et puis finalement non, mais en fait on a fait un espèce d'objet hybride, un entre-deux, un récit illustré. On voulait pas non plus mettre les photos telles quelles, puisque donc j'avais récupéré beaucoup de photos d'Augustine, donc les petites photos à bord dentelées en noir et blanc puis en couleur, qui sont très belles, mais qui finalement appartiennent au cercle familial, et là moi, pour ce côté justement universel, je me disais que c'était plus intéressant d'avoir ce regard dessiné finalement, qui donne un côté peut-être plus poétique, plus romancé justement. Et c'était aussi toute la démarche de faire à la fois certains récits très, très documentés, mais très grand public également. Donc moi j'aime beaucoup les récits d'histoire, mais des fois avec des notes de bas de page, c'est un peu plombante, un peu dur à la lecture. Moi je voulais quelque chose d'assez fluide, quelque chose qui ressemble vraiment presque à un roman.
L'ouvrage, il est sorti au mois d'octobre aux éditions du Coin de la Rue. Il semblerait que l'ouvrage a trouvé ses lecteurs, puisque je crois que vous venez de réimprimer des exemplaires.
Oui, ça c'est une grande surprise, une très belle surprise. L'ouvrage est sorti fin octobre et se trouve déjà en rupture de stock chez l'éditeur. On en trouve encore heureusement dans des librairies qui ont été assez prévoyantes, mais donc il va y avoir une réimpression au cours du mois de janvier. Mais c'est vraiment chouette de se rendre compte qu'il y a beaucoup de lecteurs qui se sont déjà emparés de cette histoire.
Je vous représente Régis Delannoy, vous êtes journaliste et puis l'auteur de cet ouvrage, Augustine, un siècle de Bretagne. C'est donc paru au mois d'octobre aux éditions du Coin de la Rue. Le tarif du livre est de 22,50 €. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.